Nous sommes 7 aujourd'hui, c'est beau. Il y a la maman et la fille. Il y a la fille et le parrain. Il y a la sainte et l'ange et l'époux et l'épouse. Ça fait quand même beau, ça. C'est merveilleux, hein. C'est le paradis. Tu montes un petit peu, il y a de la poussière, mais ici c'est le paradis. Et la messe, quand on s'approche de l'autel du Seigneur, introibo ad altaretei, je m'introduis à l'intérieur de l'autel de Dieu. Je m'engloutis à l'intérieur de l'autel de Dieu. C'est beau, c'est être catholique. Hein? On s'engloutit à l'intérieur de l'autel de Dieu. Dieu, bon, de manière à pouvoir descendre dans le Saint des Saints. Et une fois qu'on est dans le Saint des Saints, du coup, on a accès à ce qui est au-dessus des cieux. Et au-dessus des cieux, il y a un trône. Et sur le trône, il y a quelqu'un qui est assis dessus. Voilà. C'est l'évangile aujourd'hui, ça. Ça, je viens de vous dire en trois phrases, l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Jésus. Donc je suis introduit à l'intérieur. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une messe, il y a un flux, un reflux, un aller-retour. C'est le bon Dieu qui descend, enfin, c'est la vie intérieure éternelle de Dieu, qu'on a le Fils unique de Dieu qui descend. Dans notre hôtel, à notre demande, pour rendre présent devant nous, réellement, la mort de l'union hypostatique des cieux de Jésus, la mort du Verbe éternel de Dieu, voilà, qui s'est immolé. Alors, il s'est rendu présent. Et la présence de Jésus crucifié, c'était une chose. Mais lorsque, à la messe, il est rendu présent, sa présence est plus intense que quand il était sur la croix. Au Golgotha. Pourquoi? Parce que quand tu es sur la croix au Golgotha, on ne peut pas dire que la présence de son immolation est atteint un degré de plénitude substantiel. C'est pour ça qu'on dit que la messe est une transsubstantiation. C'est une transsubstantiation, n'est-ce pas? C'est une transousiation. Si on fait en grec. Transousiation. D'ailleurs, il faudrait dire maintenant transousiation. Pour que les gens comprennent, c'est pas. Sur la croix, il y avait Marie, il y avait Jean, il y avait Marie-Madeleine. C'était vraiment le bon Dieu qui était là. Et son union hypostatique, il prenait les apparences d'un homme. Il avait les apparences réelles, hein, d'une humanité réelle. Broyé, crucifié, déchiré, tout ça. Mais la présence de sa croix à lui-même, la présence de son union hypostatique déchirée au Père, la présence de son union hypostatique déchirée au monde angélique, au Saint des Saints en particulier, Et à l'arche d'alliance, c'est-à-dire à l'Immaculée Conception dans son accomplissement, n'avait pas atteint son degré de perfection. Par exemple, pour te dire, Marie-Reine n'était pas encore là. C'est Marie Corédemptrice. Hein. Il a fallu encore beaucoup, 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 beaucoup de transformation mariale pour que Marie devienne un jour Marie-Reine Immaculée d'Univers aujourd'hui. C'est la fête de Marie-Reine Immaculée d'Univers. Il a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'augmentation de sainteté. On ne peut même pas dire des centaines de fois, des abîmes de fois, des abîmes de fois, pour qu'elle atteigne ce point où il y a une espèce d'égalité d'affinité avec la sponsalité éternelle et incrée de Dieu avant la fondation du monde. De sorte que la présence de Jésus crucifié à Marie, à l'Église, n'a cessé d'augmenter. Parce que la présence, c'est quelque chose, c'est pas seulement voilà, quelque chose qui arrive. Voilà, j'étais présent quand on a cassé la figure à mon frère. Je peux très bien être présent. Des gens qui étaient présents à un moment, j'étais présent au moment du massacre de Nice. Et puis, je peux très très bien aussi, 10 ans après, être encore plus présent, ne serait-ce que parce que, la réalité ici de Jésus crucifié est beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde, beaucoup plus rédemptrice, beaucoup plus tragique aussi. Hein. Et ma présence, la présence de Marie, la présence du ciel, surmultiplie cette présence, non seulement à nous, mais à Dieu le Père. Et c'est à ça que sert la messe. La messe sert que faire que la présence de Jésus crucifié au Golgotha soit encore plus présente, encore plus réelle qu'avant. Au fur et à mesure. C'est comme disait le vieux père Emmanuel. Mais enfin, quand Jésus, là, vient ici sur l'autel, là, et est crucifié, vient sous nos yeux, et ce n'est pas moi que la Sainte Vierge était là, la croix. Non, pas moi. Non, pas moi. Nous avons sans doute plus. Nous avons sans doute plus. Ben oui, nous avons sans doute plus, bien sûr. C'est pour ça qu'on se met à genoux devant, toujours. Alors on est dans une époque où cette présence, on dirait, s'éloigne. Hein. C'est pour ça que les gens ne se mettent plus à genoux. Même quelquefois les célébrants sont loin de tout ça. Ça n'empêche que c'est quand même encore plus Jésus-Christ crucifié, réellement pressant. D'accord, c'est ça. Et c'est vrai que qu'est-ce que vous voulez à un moment donné hein. À un moment donné, l'union hypostatique déchirée de Jésus sera tellement présente en nous que la mort, la passion de Jésus-Christ qui habituellement envahit complètement notre chair, notre sang, notre âme, notre vie intérieure, elle-même va se dépasser elle-même dans la transverbération, universelle. Et pourquoi ? Parce que Jésus et tous les déploiements de la béatitude de Dieu dans l'éternité sont obligés quelque part de venir dans la création pour s'immoler parce que il faut demander pardon. Il faut demander pardon à Dieu le Père. Il faut vraiment lui demander pardon. Et plus on s'approche de la fin, plus il faut demander pardon. Et pourquoi est-ce que Dieu a voulu que la présence de Jésus crucifié soit de plus en plus présente au fur et à mesure qu'il y a une messe suivante, puis une autre, puis une autre? D'abord, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de diminution jamais dans la grâce. La grâce qui vient un jour, demain, est forcément plus grande que la grâce qu'il y a hier. C'est comme un arbre, il grandit. Il s'intensifie. Mais ça, c'est une loi, c'est pas une explication. L'explication, c'est que plus on va loin dans le temps, plus le démon touche à sa fin. Et donc, plus on va loin dans le temps, plus la fureur de Lucifer est grande, parce que le temps qu'il est compté diminue. Et sa fureur, parce que le temps qu'il est compté diminue, c'est vrai, si tu regardes de la fureur, tu vois, sur quelques millions d'années, bon, ça se dilue, tu vois. Mais là, on arrive à un moment où la même fureur se concentre et il ne reste plus à un moment donné plus que 6000 ans. Ah, très bien. Puis voilà, arrive. Puis Jésus arrive, il ne reste plus que à quelques siècles. Puis on arrive, il ne reste plus que quelques années. Une fureur maximum. Et donc la fureur maximum fait faire aux hommes les horreurs maximum. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans un monde maximum d'horreur. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant à ça? Est-ce que ça t'étonne, toi? Mais moi, ça ne m'étonne pas du tout, moi! Ça m'étonne pas du tout! Et donc, Dieu a tout prévu pour que la présence de Jésus-Christ, de Jésus qui demande pardon à la place de nous, à notre place, Dieu qui demande pardon à la place de tout le monde, demande pardon, soit de plus en plus nécessaire. De plus en plus intense, de plus en plus réel, de plus en plus présent. Parce qu'à un moment donné, le mal est tellement cinglé, quoi, qu'on ne sait plus si le mal existe ou s'il n'existe pas, quoi. Ou le bien, enfin bon, on ne sait plus, quoi. C'est comme quelqu'un que tu tortures, puis tu rajoutes torture sur torture, puis tu le réveilles, puis tu lui mets des médicaments pour qu'il ressente beaucoup plus fortes les douleurs que s'il était... Parce que t'as de l'adrénaline, hein, tu ressens moins les douleurs. Et tu mets des piqûres pour qu'il ressente encore plus les douleurs, tu tortures encore plus, tu recommences comme ça. C'est à un moment donné, tu sais plus où t'en es, quoi. C'est pas moi... La torture, c'est terrible, quoi. On t'arrache les ongles, ça te brûle. C'est atroce, ça fait mal. Et puis, on débrouille pour que tu meurs pas, hein, pour que ta torture suivante soit encore plus terrible. Maintenant, tu sais, c'est plus que du vertige, quoi. Tu sais plus où tu en es, tu sais même plus si tu existes. Enfin, je sais pas, tu penses pas à autre chose. À un moment donné, on sait même plus s'il faut demander pardon, pas demander pardon. On sait même plus. Alors, il reste plus que Jésus crucifié. Il ne reste plus que Jésus, il ne reste plus que la messe. Ouais. Il y a un moment, il ne restera plus que la messe, c'est tout. Rien d'autre. Ouais, pas besoin qu'il y en ait des millions. Il suffit qu'il y ait une messe, il ne reste plus que la messe. Alors, on demande pardon. C'est vrai, quand on rentre, si tu regardes bien, bon, d'accord, bon, attends, on rentre dans le Saint des Saints, pas de problème, on est englouti dans l'Arche d'Alliance, pas de problème. On trafique là-dedans et on trafique là-dedans, on dévaste la présence créatrice de la paternité de Dieu. Et ton pauvre tout petit qui naît pendant le troisième millénaire, il naît là, avec ça. Et on dit, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Comment ça, c'est normal? Où est-ce que c'était normal, toi, ça? Et il est dans une ambiance métaphysique, une ambiance intérieure, une ambiance spirituelle, où c'est normal qu'il y ait le maximum de mes chaumes. Pour ça que moi j'emploie le mot en hébreu, parce que au moins comme ça c'est moins traumatisant. Ben faut demander pardon quand même. On ne doit pas trouver ça normal. Plus on va loin dans le temps, plus c'est horrible. Et plus, paradoxalement, on trouve ça normal. C'est incroyable, c'est comme ça. Plus c'est terrible, plus on trouve ça normal. Voilà. Et il faut qu'il y ait sur la Terre, il faut qu'il y ait au moins une messe, au moins une par jour, qui disent non, c'est pas normal, et Jésus crucifié prend la place de tous les hommes du monde entier, de toutes les respirations de tous les hommes du monde entier, de tous les battements du cœur de chaque être humain du monde entier, de toutes les pensées de tous les hommes du monde entier, de tous les pas de chaque pas des hommes foncent dans le monde entier, de toutes les molécules, de toutes les cellules, de tous les corps, de toutes les chairs, de tout le sang des hommes du monde entier, pour les prendre en lui et vivre la présence réelle de sa mort sur la croix, qui là, cette fois-ci, est une présence réelle absolue, alors que est beaucoup plus forte, quoi, bien sûr, évidemment. Et c'est pour ça que Jésus sur la croix, ben, il dit quoi ? Eh bien, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils demandent pardon à notre place. Ils demandent pardon à notre place. Il pardonne, puisqu'il est Dieu lui-même vivant. Mais il est en même temps celui qui pardonne et celui qui demande pardon. Il est en même temps le prêtre et la victime. Il est en même temps le prêtre, celui qui demande pardon à la place des autres. Et la victime, celui qui pardonne. La moitié fait les deux. Et il reçoit le pardon de Dieu. Dans toutes les respirations, dans tous les battements de cœur, dans toutes les pensées, dans tous les sons émis, dans tous les mouvements de chaque être humain de la Terre aujourd'hui. Parce qu'une journée fait un an, fait un tout. Donne aujourd'hui le pain d'aujourd'hui, quotidien, de chaque jour. Et il prend dans un seul jour, hein, et il le rassemble et il fait la transoscension. Cette espèce de retournement, quoi. Il faut qu'il y ait, au moins une fois par jour qu'il y ait cette demande de pardon pour la paternité de Dieu, puisque maintenant, jusqu'à ce que, puisque maintenant, depuis l'an 2004 exactement, depuis que tu as trouvé, que la petite Pauline Marie a 3 ans et demi à peu près, eh bien, il y a eu aussi mes chemins. 1290 jours après ta naissance, et je écoute si mes chemins. Charmant. C'est bienvenue sur la Terre, quoi. Bienvenue chez nous. Oui. 1290 jours. C'est l'ange Gabriel qui a dit, hein, comptez 1290 jours. Et toi, ça a été 1290 jours après ta naissance. Voilà, il y a eu je écoute si mes chemins. C'est-à-dire, l'humanité a décidé de faire alliance officiellement, hein. C'est papier, c'est écrit, hein, c'est signé. Toutes les nations, tous les pays du monde, ils ont tous signé, tous, officiellement, collectivement, unanimement, juridiquement, à un niveau international, avec l'accord de toutes les religions. Ils ont décidé qu'on pouvait venir dévaster les entrailles paternelles du papa créateur de notre monde, de notre vie. C'est personne n'avait jamais osé émettre une chose pareille, même en pensée. Personne. Personne. Oh, il y a eu des péchés, mais là, ça... Eh bien, on a été créé par Dieu dans ces années-là, après, parce que Dieu attend de nous qu'on puisse être ceux qui sont choisis avec Marie-Reine Immaculée d'univers, du ciel et de la terre, pour être les instruments du monde nouveau. De ceux qui n'ont plus qu'une seule solution pour respirer sur la terre, c'est de respirer non pas avec leur propre vie, mais avec la vie de l'Immaculée Conception seule. Parce que moi, j'ai été conçu avec la transgression originelle, le péché originel, et en plus, j'ai été conçu, puis je suis né avec la transgression suprême. Je n'ai plus d'autre solution, je ne veux plus vivre avec cette conception qui est la mienne. Je ne veux pas d'une conception et d'une naissance luciférienne. Je ne veux pas de cette vie du monde d'aujourd'hui. Je ne veux pas être imbibé par l'esprit du monde, aseptisé de tous les virus, de toutes les bactéries, etc., sauf de la transgression suprême. Ah, on va enlever toutes les poussières. Ah, toutes les araignées. Toutes les toiles d'araignées à dégager. Mais la transgression suprême, non, on la garde. On n'en parle pas, ça. Ça ne nous intéresse pas. Eh bien, non, on ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire ça. On est né, on a été conçu dans ces années-là, parce que Dieu sait que nous pouvons choisir, nous sommes choisis d'ailleurs pour ça, pour vivre en dehors de l'esprit de ce monde, dans ce monde, un monde nouveau, dans l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse. Le temps va s'ouvrir. Et la Pentecôte de l'Immaculée Conception, dans ma conception, dans ma parturition, dans ma naissance, dans ma vie intérieure et extérieure, va donner une nouvelle transformation, transfiguration, métamorphose, mariage, enfin je veux dire, puissance, divine, immaculée, parfaitement divine à ma vie sur la terre, pour pouvoir aller comme ça librement vers la victoire de Jésus sur la terre, la victoire du roi, la victoire de la miséricorde, la victoire du pardon reçu et donné, la victoire de la transformation mondiale, la transformation universelle du temps. Le temps n'a plus la même signification maintenant. Je rentre dans le monde nouveau, le monde ancien est terminé. Et donc je ne m'appuie plus jamais sur le monde ancien. Et c'est quand même terrible cette histoire quand même que notre humanité, et nous on fait partie de cette humanité-là, donc on est responsable chacun, responsable de l'humanité dans laquelle il vit. Par exemple Marie, elle se sentait responsable de l'humanité dans laquelle elle vivait. Elle était responsable de tous les êtres humains au moment qu'ils vivaient dans elle. Jésus, il se sentait responsable bien sûr de tous les êtres humains avec qui il vivait. Saint Joseph c'est pareil, hein. Il sentait responsable de tous les êtres humains qui vivaient en même temps que lui. Un être humain normal se sent responsable de tous les êtres humains qui vivent en même temps que lui. Celui qui ne se sent pas responsable de tous les êtres humains qui vivent en même temps que lui, il a la preuve, son témoignage intérieur lui prouve qu'il n'est pas un être humain, puisqu'il est au même niveau de responsabilité que la bête. Une bête ne se sent pas responsable de tous les animaux qui vivent en même temps qu'eux. Mais un être humain, c'est pas pareil. Un être humain, il est spirituel. T'avais pas pensé à ça, Pauline Marie? Ben voilà! Et voilà, t'avais pas pensé à ça. J'en étais sûr. Et pourtant, c'est évident qu'on n'est pas des animaux. C'est l'évidence même. Évidemment, avec les robots, on a une tendance à fuir cette... On a une tendance à fuir ça. Hein. Mais une fois qu'on a compris, une fois qu'on a compris ça, on est responsable de cette humanité. Et c'est l'humanité qui fait ça. C'est cette humanité qui est la nôtre aujourd'hui qui fait ça. Alors qui est responsable? Qui devant Dieu est responsable? Ceux qui sont spirituels, ceux qui sont réduits à l'état bestial ne sont pas responsables. Ceux qui sont vissés devant leur télévision 2 heures par jour, par exemple, ils ne sont pas responsables. Je ne parle pas de ceux qui sont 15 heures par jour. Là, il faut dévisser l'ampoule vite. Hein. Non, c'est... Mais 2 heures par jour. Comment veux-tu avoir le moindre notion de responsabilité humaine? Donc, qui est responsable? Mais c'est ceux qui sont une vie spirituelle. C'est ceux qui sont humains, quoi. Ceux qui sont des êtres... sont des hommes, des femmes, ceux qui ont mis en place la signification sponsale de leur vie, quoi. C'est ceux qui ont une vie contemplative, ceux qui ont la vision naturelle de la foi, encore mieux, évidemment. Ceux qui vivent des sacrements. Alors, ceux qui vivent des sacrements sont les plus responsables. Et donc, c'est eux qui sont à la pointe pour renverser la vapeur. Et c'est à cause d'eux qu'il va y avoir les grands événements. Le petit coup de lance, là, oh, des cathos intérieurs de la présence réelle. Et ils vont devenir les instruments avec le roi de France, avec le grand monarque. Ils vont devenir les instruments de l'ouverture du 5e saut de l'Apocalypse, dont nous avons parlé longuement, longuement, dans les années 90, n'est-ce pas? C'est une conversation habituelle. Le monde nouveau.
On n'était pas souvent présents avec les enfants, on n'assistait pas souvent.
Mais le monde nouveau, quand même.
Les enseignements.
On a parlé du monde nouveau. La mise en place du corps spirituel venu d'en haut. Voilà. Et quand on dit Marie-Reine, on en a parlé de Marie-Reine, c'est la fête aujourd'hui de Marie-Reine. Je vais vous expliquer en 30 secondes, Marie-Reine, quand même, histoire de faire un petit rappel, quoi. Ah, moi, je laisse parler, évidemment, le docteur en théologie. Marie, c'est une femme, elle a été épouse, elle a été maman. Et il se trouve que son corps, sa chair, son sang, toute sa vie, toute sa personne, a été emporté, assumé, assomption, assumé, dans la gloire de la résurrection, d'accord? Vous me suivez, là? Hein? Vous me suivez? Eh bien, sa maternité, c'est-à-dire sa fécondité dans la chair, elle a quand même donné un corps parfait à l'humanité tout entière, en Jésus. Eh bien, sa maternité n'est pas anéantie par sa résurrection. C'est pas parce qu'elle est ressuscitée que tu crois qu'elle est anéantie. Depuis quand tu crois que toi, la résurrection anéantit? La résurrection n'a jamais anéanti personne. La résurrection, au contraire, rend encore plus vivant ta personne, corps, âme, esprit, d'accord? Donc Marie, dans ta puissance de fécondité, jusque dans la chair de sa vie, est ressuscitée. Donc sa chair maternelle ressuscitée a une fécondité, elle va donner la vie Elle va donner la vie avec son corps maternel. Donc sa maternité, alors c'est une manière de parler, hein, bien sûr. On dit qu'elle est mère sur la terre, et quand elle est ressuscitée, quand une maternité ressuscite, on dit reine. Pourquoi ? Parce que quand elle est reine, si je me tourne vers, je me mets dans le sein, dans les entrailles de Marie-Reine, attention, je me mets dans les entrailles, je m'engloutis délicieusement dans les entrailles de Marie-Reine. Mais si je m'engloutis dans les entrailles de Marie-Reine, eh bien, si je fais ce qu'il faut, attention, je crois qu'il ne faut pas se faire pas n'importe comment, dans la foi, l'espérance, la charité, eh bien, elle va engendrer, alors je suis encore sur la terre, à l'intérieur de moi, des particules de matière vivante, et même des cellules vivantes, et même des ADN vivants, des génomes vivants, des cellules staminales embryonnaires, des cellules totipotentes, staminales, royales, immaculées. Ces fameuses cellules vivantes de mon corps qui rendent dès cette terre mon corps incorruptible. Je vais avoir donc à la fin de ma vie, à force de rentrer dans cette maternité royale de Marie sur moi, mon corps va porter au milieu de mes cellules corruptibles des cellules incorruptibles. C'est pour ça qu'après l'ouverture du cinquième saut de l'Apocalypse, ceux qui vivent avec Marie-Reine, beaucoup d'entre eux vont se trouver comme ça, emportés dans la première résurrection, et ils ne mourront. Et comme dit l'épître de saint Paul aux Thessaloniciens, ils ne connaîtront pas la mort. Parce que si tu portes en toi des cellules royales, immaculées, reine immaculée, venant directement de l'engendrement que Marie met dans ton corps à toi pour la naissance du monde de nouveau, ces cellules-là sont totalement immortelles. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, le temps va s'ouvrir. Le temps va s'ouvrir dans quelques semaines, là, dans quelques mois. Bientôt, ça ne se comptera plus par mois. Le temps va s'ouvrir où on va pouvoir rentrer à l'intérieur de la présence réelle de manière telle que la transformation en nous dès cette terre sera très très grande, très humble, très petite, mais en même temps très 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 royale, très immaculée et très nécessaire pour la disparition du mal dans le monde. Mais pour ça, il faut au minimum que chaque jour on vienne demander pardon. Pour le sikusim meshomem, c'est-à-dire ceux qui veulent empêcher que la paternité de Dieu dans l'Eucharistie rejoigne la fécondité royale et assumée de l'Assomption de Marie Reine Immaculée de l'Univers. Et ceux qui veulent l'empêcher, se mettre entre les deux. Et c'est à cause de ça qu'on veut autoriser le clonage humain. Ça a l'air idiot. Les gens disent, mais qu'est-ce que ça n'a rien à voir les deux ? Mais si, justement, ça a tout à fait à voir puisque je brise les champs morphogénétiques de la nature humaine dans son lien avec la nature humaine parfaite. Et donc la seule chose que le clonage ou l'autorisation du clonage opère dans notre monde, c'est pas la séparation de Dieu et des hommes, mais c'est la séparation de la créature de Dieu vis-à-vis de ce qu'il y a de plus parfait dans la créature de Dieu, dans la création. Et donc c'est une séparation de la fécondité de Marie-Reine. C'est la seule dont la nature humaine soit parfaite. Et la créateur paternel de Dieu. Donc se mettre entre eux, Marie-Reine Immaculée, et la paternité créatrice de Dieu, c'est ça le seul but de Lucifer. Et il a réussi. Et nous demandons pardon. Pourquoi Lucifer n'y a-t-il pas pensé, ma chérie ? Réponds vite à cette question. Pourquoi il n'a pas pensé ? À quelle chose il n'avait pas pensé ? Mais il y a Saint-Joseph.
Il n'avait pas pensé à ça. Il n'avait pas pensé à ça. Il y a Saint-Joseph. Jésus, Marie, Joseph, il y a Saint-Joseph. Il y a la sponsalité. Il y a un pont. Il y a un trône. Et c'est l'évangile d'aujourd'hui, ça. Je suis en train de vous commenter l'évangile d'aujourd'hui. Je dis, waouh, comment ça? Vous jurez par l'autel? Qu'est-ce que c'est? Vous jugez par l'or qui est dans le sang, dans la maison du temple? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et figurez-vous qu'en haut des cieux, il y a un trône, et dans le trône, il y a celui qui siège dessus. Ça, Lucifer n'y avait pas pensé. Pourtant, il n'est pas idiot, Lucifer. Il est loin d'être idiot, Lucifer. Il n'avait pas pensé. C'est impossible pour lui de penser à la sponsalité. Saint Joseph n'a jamais assisté à la messe de toute sa vie. Mais il n'a pas laissé une seule journée sans assister à la messe comme ça, quand même, par anticipation, par appropriation et par puissance, et lucidement. C'est l'enveloppant, hein, c'est le principe de la messe, c'est Saint Joseph. La messe est sortie de lui. La messe, c'est Marie-Reine, c'est sa fécondité royale jusque dans le temps de notre corps corruptible. Tu sais qui est-ce qui m'a expliqué tout ça? Parce que je ne savais pas ça. C'est ma Maureen, c'est ma sœur qui m'a expliqué ça. Et ma Maureen, c'était pas une théologienne. Hein. Mais elle m'a expliqué tout ça. C'est pour moi, hein. J'y avais pas pensé.